Bienvenue à Objectif numérique, épisode 22. Au menu, des remerciements, deux sites intéressants à découvrir, sept mythes à propos du besoin d'un appareil plein capteur et le test du Samsung Galaxy Camera. L'équipe habituelle est présente, Christian Jarry.
Salut.
François Blanchet.
Salut Stéphane.
Et moi-même Stéphane Vaillancourt. Alors, pour commencer, j'aimerais remercier des gens, des fidèles auditeurs qui nous écrivent sur Twitter souvent pour nous soumettre, en fait, simplement nous transmettre des liens ou des photos, des trucs intéressants. Et je vais nommer les noms d'utilisateurs Twitter, évidemment. Alors, il y a LucB51. Il y a Cyber 6, il y a Camelot78 et Ranged You, donc Grégoire, dont j'ai parlé à l'épisode précédent.
J'en connais quelques-uns, tu sais, là.
Oui, ben c'est ça. Ces gens-là sont souvent très à l'affût des actualités, photos et tout ça, puis ils nous envoient souvent des trucs intéressants.
Merci donc, beaucoup, mais c'est de donner l'impression qu'il y a des gens qui nous écoutent.
Ben oui.
On le sait.
Toujours agréable.
On se sent moins seul.
Oui.
Non. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et on en est très, très fiers, très motivés. Et je vais vous présenter maintenant deux sites à découvrir, deux sites qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais que je trouvais intéressant. Et le premier site, ça s'appelle crop.me, donc crop.me. Et c'est un site qui sert à redimensionner des photos sans se fatiguer. Ah. c'est un site où on téléverse nos images. On peut en envoyer une ou plusieurs. Et puis après ça, on choisit des tailles différentes pour redimensionner nos images, mais aussi ça peut les rogner si jamais le format est différent. Supposons qu'on envoie une photo en 800x600 et on veut la redimensionner à 50x50 pixels. Évidemment, le format n'est pas le même, donc ça va rogner les côtés de la photo. Mais sinon, si on veut faire de la mise en ligne rapidement d'images, bien on envoie nos photos-là et puis on peut redimensionner de 50x50 pixels jusqu'à 1024x768. Donc, c'est des formats idéaux pour mettre sur Facebook, Google Plus ou Twitter.
Très bien. De savoir c'est quoi la différence avec l'autre site qu'on a parlé un petit peu auparavant.
Ben, c'est que lui fonctionne.
Ah oui, OK.
Non,
ah,
mais tu disais que tu avais eu un problème avec le script.
Tout à fait,
ça avait planté.
Ouais.
Donc, celui-là, je l'ai testé et ça te renvoie un fichier zip avec tes images redimensionnées, tout simplement. Et ça marche. Donc, et aussi.
Évidemment, on découvre toujours ça après qu'on n'en a plus besoin parce que moi, ça m'est arrivé puis j'en aurais eu besoin. Mais bon, regarde.
Mais c'est ça. Ben, c'est une solution dont tu pourras te servir.
Oui, oui.
Et il y a aussi la possibilité de définir une taille personnalisée. Là, on peut mettre la dimension qu'on veut, mais déjà, il nous propose 9 formats fixes qu'on a juste à cliquer sur un bouton.
Pour que ça soit plus rapide.
Oui, puis on clique sur
ensuite. J'aurais pu découvrir ça quand on mettait les photos sur le blog, justement.
Oui, hein? D'ailleurs, c'est une bonne idée, je vais m'en servir.
Oui, oui.
Mais disons, dans Photoshop, ça va quand même assez vite.
Bon, oui, mais tu sais, ça va encore plus vite avec ça.
Oui, absolument. Alors, crop.me, un petit site intéressant. Et ça sera toujours dans les notes, comme à l'habitude.
Et dans mes favoris maintenant.
Le deuxième site dont je voulais vous parler, c'est un site que j'ai découvert il y a quelques semaines grâce à un autre utilisateur Twitter, Jean-Philippe Murray. Donc, son nom Twitter, c'est Curieux Murray. Il s'agit du site Adorama.com. Pour nos auditeurs en Europe, malheureusement, je n'ai pas vérifié s'ils font la livraison en Europe, mais en Amérique du Nord, en tout cas, Canada, États-Unis, c'est fantastique. Ils ont des prix assez bas.
Ouais.
Une livraison rapide. Et j'ai même pu tester leur service à la clientèle parce qu'il y a un item que j'avais essayé de commander. Il y a beaucoup d'équipements photo, mais aussi de l'équipement informatique, même des cartouches de toner pour des imprimantes laser. Et il ne restait plus le modèle de cartouche dont j'avais besoin. Et là, la personne du service à la clientèle m'a contacté. Et là, ils m'ont dit, écoutez, on n'a plus tel modèle. Voulez-vous tel autre à la place qui est sensiblement le même? Et là, je leur ai dit, non, je vais remplacer par tel item. Évidemment, je leur ai envoyé le lien et le numéro de le code d'item pour que ça facilite les choses, mais c'est quand même, je vous dirais, en 24 à 48 heures, on a une réponse, puis c'est quand même assez rapide.
Bon,
là,
ça,
là,
bien.
Oui, oui.
Et, ça vaut toujours la peine de le mentionner quand on a un bon service oui, à la oui. clientèle.
Oui, oui. Puis moi, j'ai commandé un paquet de trucs, carte SD. J'ai commandé une deuxième pile pour mon Sony Nexus avec un chargeur en plus. La pile coûtait 35$, donc ailleurs, Christian t'avait parlé, je pense, de 50$ pour une pile ou en tout cas pour le chargeur. Puis moi, j'ai eu le chargeur à 15$.
Donc, non, regarde, quand tu fais des recherches sur Internet, tu trouves des fois juste le site officiel, ce qui est toujours plus cher, ça dépend de bien des affaires.
Ben, c'est ça. Mais la pile, c'est même pas une pile, disons, qui vient de Chine ou quoi que ce soit. Là, c'est une pile.
C'est pas un
vraiment,
clone. Là.
C'est pas un clone. C'est vraiment une pile, peut-être pas d'origine, mais vraiment compatible. C'est comme, mettons, l'équivalent de Sigma par rapport à un objectif Canon. C'est pas un objectif bas de gamme, c'est un bon objectif, mais c'est pas la marque nécessairement, là, mais en tout cas. Donc, ça serait un équivalent comme ça.
Ben, pour une pile, je trouve que c'est déjà moins pire en partant.
Oui, ben, c'est que je connais quelqu'un, moi, qui s'est commandé deux piles pour son Sony Nex 3 sur eBay. Et ça lui avait coûté peut-être 20$ pour deux piles. Déjà, c'est louche un peu.
En tout cas.
Et les deux ne fonctionnent pas. Je les ai même testés dans mon appareil. Yes. Et c'est du 7.4 volts plutôt que du 7.2. J'ai trouvé le problème. Là.
Ah.
Donc, c'est même pas le bon voltage dans la pile. Donc, peut-être que ça fonctionne en Asie, remarquez. Peut-être que c'est pas exactement les mêmes choses, mais c'est
bizarre. Non, mais il y a souvent il y a du monde qui essaie de t'arnaquer là-dedans.
Ouais,
ça arrive fréquemment.
Il s'est fait rembourser.
OK, ben c'est pas pire.
C'est ça. Donc, il m'avait dit, écoute, je les donne. Si ça fonctionne dans ton appareil, tant mieux. Sinon, ben, mets-les au recyclage. Et...
C'est ça, on a tous des expériences différentes. Moi, j'ai commandé, c'était deux piles d'origine Canon. Mais regarde, je me doute fortement qu'au prix où ce qui était, ça m'a pas coûté 100$ pour les deux.
Ouais.
Fait que c'est pas cher, là, si tu fais le calcul. Puis j'ai la nette impression que c'était probablement du marché gris qui appelle, pas du marché noir, mais pas loin. Puis, comme je disais, c'est des piles d'origine. Il n'y a aucune différence. Okay. Ça marche très, très bien. Bon. Fait que tout dépend.
Tant mieux. Donc, c'est ça. C'est mon deuxième site dont je vous parlais. C'est adorama.com. Donc, je vous le conseille fortement.
À mettre
c'est
dans vos signets.
Ouais, c'est drôle. Je l'ai vu souvent, mais j'ai comme jamais pris la peine d'y aller.
Même chose.
Justement, cet après-midi, en cherchant pour la préparation, justement, du podcast, je l'ai vu. Puis, il marquait des prix, puis c'était souvent dans les prix les moins chers, c'était ce site-là qui était là.
Oui, mais moi non plus, je n'avais jamais commandé de là avant. Puis, quand justement Jean-Philippe avait publié un truc sur Twitter, un petit gadget qu'on s'est acheté, le fameux Pogo Plug.
Ah, ouais, ouais, ouais.
Et j'en ai deux, comme vous pouvez voir. C'était 15$, puis ça se vend jusqu'à 45$ ailleurs. Donc, des fois, on peut vraiment avoir des
différences de prix. T'en as deux pour moins que le prix d'un.
Exact. Ben évidemment, il y a des frais de transport, mais les frais de transport, ça me revenait, mettons, deux pour le prix d'un.
C'est excellent.
Donc, alors voilà, ça conclut mon petit segment à moi. Christian, toi, tu vas nous parler de mythes.
Oui, j'ai vu cet article-là, ça m'a beaucoup intrigué, en fait. On parle souvent, les photographes professionnels ont un peu comment je pourrais dire, sans nous brusquer personne, ont beaucoup l'impression que ça prend absolument une caméra plein format pour avoir des résultats intéressants. Puis, ça fait un certain bout de temps que je suis sur Twitter quelqu'un. Ben, en fait, vous avez tous vu probablement ce concours passer. C'est quelqu'un qui donne, aux 3-4 mois, que ce soit une 5D ou des D600, il fait souvent des concours par rapport à ça. Pour les données Scott Bourne. Je suis sûr que certains, à peu près tout le monde a participé. Il n'y a pas de crosse d'ailleurs en passant. Il la donne vraiment à la caméra.
Scott
là.
Bourne, c'est un photographe connu.
Exact.
Il a écrit des livres.
Il a écrit des livres. Ça, c'est un photographe connu. Mais lui, il s'est tanné de traîner sa grosse caméra. Ça, il s'est acheté une Olympus OMD.
EM5.
Exactement. Ouais. Il a décidé de remplacer. Oui. Qui a décidé de remplacer tout son équipement professionnel seulement par ça. Puis. Lui, ce qu'il dit, c'est ça, c'est que il y a 7 mythes qui, lui, ça fait un certain bout de temps maintenant, puis il en a beaucoup expérimenté, beaucoup de choses. Il y a donc 7 mythes qui dit qu'on n'a pas réellement besoin d'une caméra plein capteur. Le premier, c'est l'argument de la basse lumière, la basse luminosité. Lui, il dit, dans le fond, tu amènes ta propre lumière. Bien souvent contrairement, il dit, tu amènes des réflecteurs, tu amènes des flashs, tu amènes quoi que ce soit, il dit, t'es capable de compenser la majorité du temps. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, c'est sûr que ça aide, ça va faciliter, mais est-ce que c'est nécessaire? Non.
Ben, tu peux avoir aussi un bon objectif avec une grande ouverture. Ou
voilà, ça aussi va t'aider à compenser. Encore une fois, je dis pas qu'il y a raison, je dis pas qu'il y a tort, mais c'est des points de vue qui sont intéressants. T'sais. La profondeur de champ. Souvent, ils disent on va avoir une plus grande profondeur de champ. Mais lui, son argument, c'est que tu pognes un objectif, exemple, 75 mm à 1.8. Il dit, la majorité du temps, tu vas avoir assez de profondeur de champ pour l'effet que tu veux faire. Il dit, c'est sûr que tu en as moins qu'un, justement, un plein capteur, mais il dit, au pire des cas, on s'en cachera pas personne que tu peux le faire aussi en post-production. Tu es capable d'en faire beaucoup. J'ai vu des magnifiques photos, ben, justement, Curieux Murray avait posté des photos où ce que ça donne l'impression qu'il y a un tilt shift. Un appareil qui te permet de faire de la miniaturisation d'objets, de choses. C'est super intéressant. Puis là, je dis, ah oui, tu t'es acheté un appareil, un objectif tilt-shift. Je dis, non, c'est tout fait en post-production. Puis, honnêtement, pour avoir vu les deux,
oui, c'était une très photo bien de réussi. New York. Hein,
exact.
Pense,
c'est ça. Ah, ouais, c'était très bien réussi. Ouais. Ça paraissait pas bien gros. C'était bien.
Petite parenthèse, en tout cas, juste pour corriger un petit détail, c'est qu'en fait, avec un capteur plein format, on obtient une moins de profondeur de champ. On peut réussir à aller chercher moins de profondeur de champ.
C'est ça que j'ai dit. Réécoutez comme vous, c'est sûr que vous allez entendre ça. Ouais, en tout cas, bref, je voulais dire.
On a plus moins de profondeur de champ.
Ouais, bon, plus moins, en tout cas. Oui, mais c'est comme dit Stéphane, en effet, petite erreur de ma part, désolé. Le troisième mythe, c'est l'argument de la flexibilité des objectifs. Dans le fond, tu sais, on a besoin d'un objectif pour faire ci, un objectif pour faire ça. Lui, il est rendu à n'en utiliser que 2-3. Il a son objectif, oui, pour faire ci, pour faire ça, mais on panique un peu sur certaines affaires. Il dit, c'est pas vrai que tu as absolument besoin d'un objectif qui fait de la macro en toutes les situations. Il dit, si t'en as un, t'as pas besoin de 12 objectifs, t'as pas besoin de... Il dit, tu t'en gardes 2-3. Puis ça, c'est un argument sur lequel je suis d'accord. Comme je disais, moi, 99% du temps, j'ai ma 24-105 sur ma caméra, puis je change même plus.
Même chose pour moi, puis j'ai la moitié à peu près de ta longueur focale. Moi, j'ai ma 17-50. Qui me sert dans 99% des cas.
Voilà.
Donc, ça dépend des besoins, ça dépend de vos habitudes de photo. Ouais. Si vous faites juste du paysage, c'est sûr qu'une 17-50, ça peut être bien, mais si vous faites des photos d'oiseaux, des trucs comme ça, là, ben,
ça va peut-être être l'inverse, mais peut-être que c'est tout ce que vous allez utiliser aussi.
Aussi.
Peut-être que si la seule chose pour laquelle vous sortez votre caméra, ben c'est drôle parce que un de mes patrons au travail me disait justement ça. Lui, s'est acheté une Sigma, c'est 150-500, je pense.
OK.
Puis il dit c'est à peu près tout ce que je mets sur ma caméra. C'est à peu près le seul objectif que j'utilise.
Parce que dans d'autres situations, il va prendre peut-être un petit compact pour les soirées entre amis, en famille.
En fait, non, il disait carrément je prends mon cellulaire.
Aussi, voilà.
Lui, ce qu'il aime, c'est prendre des photos d'oiseaux, etc. Mm. Il y en a beaucoup dans son coin. Fait que il dit, je l'enlève jamais. Il dit, j'aime autant de l'avoir tout de suite. Tu sais, c'est prêt, tu la prends, tu prends ta photo, puis c'est fini. Fait que tout dépend des besoins.
Surtout photos d'oiseaux, d'animaux, il faut être prêt quand on veut la prendre.
Oui, oui, exact.
C'est pas le temps de changer de l'objectif.
Non, non, ça reste pas longtemps. L'autre argument, le quatrième, c'est que les photos sont plus...
sont moins piqués, si on veut. Moins...
Sharpness, ouais, c'est ça?
La netteté.
La netteté, voilà.
Merci, netteté. Lui, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que le monde pense qu'une photo est plus nette sur un plein format, puis il dit, la physique dit le contraire. Il dit, c'est tellement... Il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, que ce soit l'objectif lui-même, la profondeur des pixels, la grosseur des pixels, la distance du sujet et le talent du photographe. Mmh. Il dit, à un moment donné, il dit, tout y rentre. C'est sûr.
Regarde, il a tout à fait raison.
C'est vrai. Puis il a raison aussi que, dans le sens que c'est sûr et certain que si tu prends le pire objectif possible sur la Terre puis que tu mets ça sur ton appareil, tu peux pas t'attendre à des miracles. Mmh. Mais en même temps... Si tu prends le meilleur objectif sur une caméra un peu moyenne, j'ai toujours dit que tu risques d'avoir des meilleurs résultats que l'inverse.
Ouais, ouais. Parce que, non, ça, c'est discutable un peu, ce point-là.
C'est ça.
Il a raison, mais c'est vrai aussi que si on se donne toutes les meilleures chances avec le meilleur appareil...
Mais c'est ça.
Les outils. C'est un outil aussi. Là,
mais c'est ça. Mais même moi, tu sais, je sais, on en a déjà parlé souvent, c'est que tout dépend de tes... Qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat?
Oh oui.
C'est quoi tes attentes? qu'est-ce que tu veux faire avec tes photos? Tout ça là, va rentrer en ligne de compte aussi à un moment donné de tout ça. Là.
C'est ça.
Puis j'ai vu des photos de cette personne-là, puis il prend des photos d'oiseaux, puis s'il m'avait pas dit que c'était pas prendre avec un plein capteur, je l'aurais jamais su.
Mm-hmm.
Puis lui, c'est une petite caméra 4 tiers, tu sais.
Ce qui veut dire, en fait, c'est qu'il faut pas devenir fou avec ça non plus.
Non, c'est ça.
Il faut y aller c'est ça, selon son budget, ses besoins, puis selon le résultat auquel on veut... Tu sais, un résultat logique qu'on veut obtenir. Si on n'est pas un expert en photo, on peut pas s'attendre non plus à faire des photos comme Scott Bourne.
Non.
Tu sais, il y a une différence aussi, là. Mais avec le temps, on se perfectionne, puis on peut s'équiper mieux, mais sans aller chercher nécessairement l'objectif à 3-4 000 $ Mm-hmm.
En effet. Un autre de ces arguments, celui-là, il est vrai, là, mais c'est des plus grands angles. Et c'est sûr que si tu veux une photo faite avec beaucoup, beaucoup de rondeur à 8, tu peux pas. Impossible. La plus petite, c'est genre 16 mm, puis c'est pas un vrai 16 mm, c'est plus l'équivalent de 24-25 en mm-hmm. général. Et comme l'argument que lui dit, il dit dans mon temps, on avait des appareils 35
mm,
mm-hmm. puis c'est tout ce qu'on avait.
Ouais.
Ouais, et ça, vrai. C'était le plus large que t'avais. Fait qu'il dit 24 pour moi, c'est large pas mal.
Ouais.
C'est sûr que ça dépend de ce que tu veux faire. C'est toujours la même chose. Lui, il disait, retourner ça d'un autre sens, il dit, si tu veux prendre des photos d'oiseaux, tout ça, ben c'est l'inverse. T'es encore plus proche parce que justement, tu sais, t'as pas ton wide angle. Pas ton wide angle, ton
plein capteur. Donc, t'as ce qu'on appelle le crop factor, le facteur de rognage.
Fait que là, ça devient plus intéressant.
Ben oui. Parce que si on prend une 400 mm, on multiplie par 1.5 ou 1.6, puis ça nous donne comme 600 ou 600 voilà. quelques millimètres.
Et voilà.
C'est intéressant.
Celui-là, je pense que c'est celui, quand j'ai lu, j'ai le plus ri, qui est l'argument de la meilleure
construction.
Ah. Exactement. Lui, carrément, son premier commentaire dans ce point-là, c'est « soupir ». C'est vrai, je veux dire, bon, regarde, OK, oui, l'avantage des pleins capteurs, c'est qu'ils sont souvent hermétiques, ils sont souvent un peu plus solides, en magnésium, tout ça, mais ça veut pas dire que tu peux pas avoir une excellente caméra qui est plus petite, qui est aussi solide aussi, là. C'est pas un argument pour le plein capteur.
Ben non.
Ça dépend comment que la caméra est faite. Ma caméra, elle est pas plein capteur, puis elle est en magnésium, elle est très, très solide, elle est... pas complètement
tropicalisée.
Tropicalisée.
Okay. Elle
n'est
pas imperméable.
Ignifuge.
Ouais, c'est ça. Ouais, ben, remarque.
Ignifuge, ça c'est pour le feu.
Ouais.
C'est ça que je disais.
Ah, ok.
Mais si vous voulez rire, en passant, là, vous trouverez, il y a un article sur c'est Digital Rev sur YouTube qui ont pris une 7D, qui ont fait débouler les escaliers, qui l'ont mis dans la glace, qui ont mis le feu. Et elle prend encore des photos. C'est assez impressionnant. Sérieux, là. En tout cas, petite parenthèse. Mais tu sais, encore une fois, c'est une preuve que c'est pas pourtant une plein capteur, puis elle est très solide.
Non, puis il y a des gammes comme Olympus, Tough, ou tu sais, il y a d'autres appareils qu'on peut échapper, qu'on peut mettre dans l'eau, dans la poussière.
Ah oui, mais ouais. Eux, ils sont faits pour ça.
C'est fait pour ça, mais quand même, ouais. Ouais, mais t'es pas obligé de payer des milliers de dollars pour avoir un appareil
solide.
C'est
pas le seul argument pour ça, c'est ça.
Puis c'est ça. C'est pas parce que tu as un appareil plein capteur qui va forcément être heavy duty, si on peut dire, qui va vraiment être très, très solide. Oui, normalement, on s'attend à avoir une qualité. Oui, oui, on s'attend à avoir une qualité de construction parce qu'on paye quand même un montant important. Mais normalement, quand on achète de l'équipement comme ça, on y fait plus attention qu'autre chose parce que c'est un investissement, un appareil comme ça. Ouais.
Ben, tu vois, tu dis ça, puis si ma mémoire est bonne, le 6D n'est pas tout à fait la même conception. Je pense pas qu'il tropicalisé, des choses comme ça.
C'est pas la même gamme.
Mais c'est un plein capteur.
Ah, ouais. Ça n'a rien à voir.
Mais c'est un plein capteur.
Non, mais tu sais, c'est ça, je te dis. C'est, mais c'est ça, mais tu vois, ouais, mais ma 7D est moins chère et tropicalisée et en magnésium. Tu vois, fait que c'est ça, je dis, ça dépend. Tu peux pas dire parce que c'est une plein capteur qu'elle va être plus solide, plus grosse, plus petite. Pas nécessairement. Faut faire attention avec ça. Puis le dernier argument, ben ça aussi, je l'ai trouvé assez drôle, c'est juste que ça a l'air plus cool. Ça a l'air plus hot à avoir. Regarde, bon, c'est peut-être vrai un peu, là, on s'en cachera pas que, tu sais, quand tu vois quelqu'un qui se promène sur la rue avec un appareil photo, puis quand tu commences à connaître les gammes de caméras, tout ça, quand t'en vois certaines, tu le sais qu'est-ce que c'est. Puis ça, ça m'arrive, là. Je ne dis pas le contraire. Que tu regardes, tu dis... Ah, OK, ouais, c'est
ouais, je me suis promené avec un photographe qui avait un DX. Puis ouais.
C'est tellement comme les voitures.
C'est comme les voitures. Mais tu sais, le facteur a l'air cool. Regarde, là, ma 7D avec sa poignée pour la batterie, puis tout ça, elle est grosse et massive. Puis tout le monde me dit, ah, ça doit être une caméra professionnelle. Non.
Et tu te fais refuser l'accès au Centre Bell ou dans les endroits où il y a des spectacles parce que tu as un appareil photo professionnel. T'sais.
Pour eux autres, la définition d'un appareil photo professionnel, c'est un appareil que tu peux enlever l'objectif. Ils n'ont pas encore compris le concept que maintenant, les plus petits aussi, tu peux les enlever.
C'est
mais
sûr.
Bon.
Et ça, les plus petits font d'aussi belles photos souvent. Ouais. Ou en
tout cas, que ça change.
Ouais. Fait que non, c'est ça. Puis en tout cas, vous nous direz vous ce que vous en pensez. Moi, je pense que, de toute façon, il a bien raison. Il ne faut pas paniquer. Il y a des avantages indéniables, mais je pense pas que c'est la fin du monde.
Ben,
non
c'est
plus.
Ça. Ce qu'il dit, c'est de ne pas en faire peut-être un but dans sa vie.
Un culte,
ça prend un plein capteur, sinon j'ai pas un bon appareil. Mais bon, c'est sûr que quelqu'un qui fait ça pour gagner sa vie ou peu importe, a besoin
d'outils.
Ça vaut
la peine de l'investir de toute façon.
Mais sinon, ça va dépendre du point où vous êtes rendu en photo.
Voilà. Que t'es sage, Stéphane.
Ouais, c'est mon budget qui me rend sage.
Ouais, moi aussi.
Merci, Christian. On va passer maintenant au test du Samsung Galaxy Camera.
Ah, quand j'ai eu cette caméra-là dans les mains, je pensais jamais tomber en amour avec ça autant. Écoute, Christian, c'est comme quand toi, tu as eu ta Fuji...
La X100.
Ouais, sauf que toi, tu savais ce qui s'en venait, pas moi. Moi, en fait, quand on a reçu ça pour les tests, j'ai dit « Ah, tiens, c'est intéressant », mais là, après avoir passé une couple d'heures à jouer avec, j'ai fait comme « Oh, que j'aime ça, cette caméra-là ».
Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial?
Ben, je vais commencer, je vais y aller en douceur quand même, je vais commencer avec les fonctions, comment je pourrais dire, les spécifications de la caméra. C'est une caméra qui est sortie en décembre passé, qui coûte 600$. OK, bon, ça a l'air quand même assez important, mais il y a des fonctions intéressantes. Ça va chercher quand même un public...
plus large,
je dirais.
Oui, c'est... donc, c'est un type compact. L'objectif là-dessus, on part de 23 mm et on peut grossir ça de 21x. donc, ça donne un bon range là, jusqu'à quelque chose comme 85 mm, quelque chose comme ça.
Non. 483
mm. Ah, oui.
Excusez, il manque quelques chiffres.
Oui, définitivement.
Ce qui est, pour un compact, assez intéressant.
Assez impressionnant. Puis c'est pas numérique.
C'est pas numérique. Optique. C'est un objectif optique, d'ailleurs, qui ressort quand même assez loin là, du boîtier, quand on zoome avec. Il y a quand même une contrepartie à ça. C'est que ça commence à 2.8 l'ouverture, à 23 mm, et ça tombe à 5.9.
Plus que deux crans.
Quand on arrive,
on s'entend que c'est 21X, le zoom.
Non, mais c'est pas si mal. C'est plus que deux crans, mais deux crans, c'est pas si pire.
Ouais. Il y a un capteur de 16 mégapixels qui est CMOS avec d'un demi-pouce. Pour ISO, c'est de entre 100 et 3200. La résolution de l'écran, parce que c'est un écran, pour ceux qui connaissent le Galaxy S3, c'est le même écran, exactement le même écran, qui donne une résolution de 1280 par 720 sur 4.8 pouces ou 12.2 cm de diagonale. Quand on a cette caméra-là en main, c'est incroyable parce que toute la partie arrière de la caméra, c'est l'écran.
C'est comme un appareil Android.
Oui, ce qui m'amène à vous décrire, c'est quoi, après vous avoir donné une spécification, c'est un appareil hybride entre un téléphone et une caméra compacte. Moi, le concept en partant, je trouve ça vraiment génial.
Oui.
Pourquoi? Parce que ça devient une caméra parfaite pour voyager. Ça vise vraiment les gens qui adorent être connectés. Parce que là, on se retrouve avec un système Android complet. La dernière version qui se trouve être Jelly Bean 4.1, je pense.
4.1.2.
Oui, 4.1.2. Ils n'ont pas encore fait le 4.2. Il existe-tu le 4.2 sur Jelly Bean en ce moment? Bon, il n'est pas encore fait, mais c'est des petits détails.
C'est un détail, rendu à ce point-là. C'est pas comme les Android à 2. Quelques. Là.
Non, Nico en a fait un sur Android 2.3, mais c'était plus. C'était pour tester peut-être le marché.
Ouais,
Mais non. Samsung est allé directement avec une version récente. Puis,
ça paraît vraiment.
C'est pas le premier appareil à avoir intégré un Android et un appareil photo. Il y en a d'autres que.
Ben, c'est ça, le Nikon, là, je me souviens pas du modèle.
Mais là, on est là. En tout cas, moi, je pense en termes de technologie, ça fonctionne. Mm-hmm. C'est hyper rapide. Pour ceux qui connaissent les systèmes Android, on s'y retrouve tout de suite. Là. C'est automatique. Tu es en mode menu Android ou en mode caméra, ça switch assez rapidement.
C'est ça. Ben, en fait, le côté Android, c'est exactement le Samsung Galaxy S3 sans la fonction de téléphone. Là.
Ouais.
Mais tout le reste est là.
Oui, tout le reste est là. Donc, ce qui veut dire que, je donne un exemple, je pars en voyage, je peux installer des applications Instagram, Facebook. On prend sa photo, c'est automatique, ça s'en va directement sur le réseau. Si on a une connexion Wi-Fi... Il y a aussi une carte, on peut mettre une carte à puce dans le téléphone.
Mm-hmm.
Il n'y aura pas la fonction téléphonique, mais on va quand même avoir, on va avoir la possibilité d'acheter du data.
Du 3G. Hein?
Oui.
Il y a 3G. Le 3G dessus?
Oui, ouais, 3G, mais 4G juste data. Aussi.
Mais pas, c'est pas grave, pas si tu as le 3G data, tu peux mettre Skype, tu peux mettre quoi que ce soit.
C'est ça, tu peux t'en servir.
Wow, ça je savais pas qu'il y avait le 3G.
Mm-hmm. Oui, téléphonie IP. Donc, ça, ce qui rajoute vraiment à son attrait, parce que là, on parle... On commence à arriver vers la prochaine génération.
Oh, oui.
Mais c'est ce dont je parlais, moi, dans
l'épisode précédent. On va délaisser de plus en plus les appareils photo ou les cellulaires, dépendamment de ce qu'on on recherche, parce que là, on se retrouve avec un hybride. Puis c'est quand même la première version, là.
Oui, mais le concept, il est là. Je l'ai manipulé, puis j'avoue que moi, avec, c'est impressionnant, là.
L'appareil est plus épais, évidemment, qu'un téléphone, parce qu'il y a toute la portion de l'objectif qui doit sortir.
Oui, il y a des gens qui n'aimeront pas tout à fait la grosseur puis le poids. C'est quand même relativement lourd.
Mais ça se glisse quand même pas si mal dans une poche.
Plus ou moins.
C'est pas si mal.
On peut.
Pour en avoir testé pas mal jusqu'à date, là, c'est pas si pire. Moi, je trouve que c'est pas...
Bon, ça dépend de la grandeur de tes poches, par exemple.
Ouais, c'est peut-être ça.
Ça dépend. Est-ce que t'es le genre à porter des jeans serrés ou pas?
Pas vraiment, non.
Bon, mais OK. Toi, ça marche.
J'ai pas des skinny jeans.
Non. Ouais, c'est ça. Les hipsters avec les jeans serrés, désolé les amis, mais
c'est,
ça marche
c'est
pas.
Final, non. Ça, t'as pas grand appareil qui rentre là-dedans, de toute façon.
Ouais. Donc, c'est ça. Comme je disais, système Android, ce qui nous permet une interactivité assez incroyable avec un appareil photo. Et la qualité des photos est vraiment bonne aussi. Vous regarderez sur le blog, j'ai fait un comparatif avec la même photo entre ma 7D, mon Galaxy S3 et la Galaxy Camera. Et c'est franchement très près un de l'autre.
Ah
là. Oui, à l'œil, là. Même la 7D, là. La 7D, où ce qu'on voit la différence, c'est dans la profondeur de champ.
Ça, tu peux pas en avoir.
L'aberration, puis peut-être un petit peu de bruit, mais c'est dans un environnement bien éclairé, un peu comme tu mentionnais dans l'épisode. Tu sais, quand tu as ta lumière, tu vas faire des belles photos. Bon, ben là, tu sais, on va arrêter de pousser des tests à prendre une photo quand il n'y a pas de lumière.
Avec une chandelle avec une chandelle, toute une pièce.
C'est
là.
Ça, soyons réalistes. Bon.
Il y a des utilités pour ça, mais la majorité du monde n'auront pas.
C'est ça. Là, on parle d'une caméra compacte.
Un appareil photo de voyage. Là,
c'est Fait que c'est franchement étonnant de voir comment que les photos ça ressemble.
Mm-hmm.
Vous irez voir ça. Si je fais une petite liste de points positifs sur cet appareil-là, la prise en main est vraiment bonne. C'est l'espèce de petite poignée qu'on a sur le côté. Là, la petite grippe facile.
Mm-hmm.
C'est un appareil qui est assez carré.
Oui, mais moi je trouve que c'est un beau design. Ça ressemble au Stormtrooper dans Star Wars.
Il est élégant.
C'est un blanc ivoire, il est super beau. D'ailleurs, les gens qui me voyaient avec ils me disaient waouh, le design, ça marche au bout. Cette caméra-là, c'est super. Je suis assez d'accord. Juste le fait que l'écran arrière recouvre tout le. Ça donne une ligne super simple.
Mais ça, c'est spécial de prendre une photo en regardant l'écran de son appareil. Mais c'est un écran de 5 pouces.
Oui.
C'est gros au début, hein?
Dit, mon Dieu, c'est gros, mais on voit aussi beaucoup de détails qu'on ne verrait pas dans des plus petits écrans.
C'est vrai.
Notre composition aussi est directement en couleur. Bon, bien ça, évidemment, mais je veux dire, c'est vraiment frappant. Puis les couleurs sont saturées aussi sur l'écran. C'est pas désagréable à l'œil. Là,
et j'ai fait le calcul, une résolution de 1280 par 720, ça donne 921 000 points.
Ah, bon. Ah,
donc,
c'est ça.
Mais sur un écran de 5 pouces.
Mais sur un écran de 5 pouces,
C'est bon. Côté rapidité, quand on décide de se mettre en mode caméra avec la photo, avec l'appareil, ça se fait en quelques secondes. Là, on parle de peut-être une seconde, le temps de que l'objectif sorte l'appareil puis mm-hmm. soit prêt à prendre une photo. Si, par contre, on a décidé de mettre, d'éteindre son appareil complètement, ben là,
ça doit être passablement
c'est
long.
Un appareil Android, donc il faut que ça redémarre. Mm-hmm. Donc, ça peut prendre une vingtaine de secondes facilement là, pour décoller ça. Fait qu'il faut pas la mettre à off complètement.
Par comme contre, un téléphone.
Comme un téléphone. Par contre, comme un téléphone, il y a des... Il y a des fonctions qui restent en éveil, là, même si l'écran est fermé, il y a quand même des fonctions. Fait que là, ça pose un problème pour moi avec la batterie. C'est comme un S3, comme n'importe quel smartphone aujourd'hui, les batteries, ça ne dure pas tellement longtemps. Hein. Mm-hmm. Tu sais, une journée, puis il faut recharger, puis ça, c'est ceux qui ont des bonnes batteries.
Puis j'imagine que tu ne peux pas la remplacer.
Tu peux remplacer la batterie.
Intéressant.
Oui.
Intéressant.
Ça,
oui,
c'est bien.
Oui, donc, tu t'achètes une deuxième petite batterie, puis mm-hmm. tu es safe. Tu peux partir avec ça.
Ben, ça, c'est bien.
Il y a une petite porte qui donne accès à la batterie, à la carte SIM et à la connexion HDMI pour visionner sur...
Franchement,
on peut mettre une carte micro SD.
On peut mettre aussi une carte micro SD, oui. Évidemment, parce que là, quand tu as un appareil photo de cette qualité-là, il faut que tu puisses quand même... les mémoires internes...
Ben, souvent, s'il y a une mémoire de 16 gigs ou 32 gigs, ça peut être bien, mais de pouvoir sortir une carte pour la brancher,
Pour faire son transfert. Ouais. L'écran tactile, c'est hyper rapide. Mm-hmm. Évidemment, le dernier système d'exploitation d'Android, mm-hmm. c'est franchement, là, c'est vraiment le fun à utiliser. Le mode, il y a trois modes aussi. Il y a un mode automatique, ça le dit, ce que ça fait. Tu as le mode... je me rappelle pas du nom. Je pense que c'est... Tu as le mode expert aussi, qui est la dernière... qui est le mode le plus évolué, évidemment. Puis l'autre, c'est le mode smart. Oui, le mode smart, okay. Ça s'appelle. Okay. Bon, dans le mode smart, c'est une sélection de scènes, comme les autres, n'importe quelle autre caméra, sauf qu'on l'a à l'écran, puis on voit les scènes. Graphiquement, il montre une scène de nuit, tu vois une photo de nuit. Fait que c'est facile de comprendre qu'est-ce que ça fait, l'effet.
En faisant défiler avec l'écran tactile. Ça,
oui, c'est ça, génial, évidemment. Là. Tout se passe tactilement, sauf... le déclenchement d'une photo et le zoom qui sont des pitons physiques.
OK.
Placés à droite en haut de la caméra comme
mais en mode expert, c'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est ça, c'est qu'on a des espèces de molettes de sélection, mais à l'écran, qui représentent un objectif ou une molette pour changer l'ouverture, la vitesse d'obturation, la focale.
Ça, c'est un facteur « wow ». Ça, je montrais ça aux gens, puis ils disaient « oh ». C'est vraiment comme si tu jouais directement sur ton objectif pour changer la valeur d'ouverture, de vitesse, aussi de compensation d'exposition.
L'interface a été bien réalisée là-dessus.
Puis, évidemment, on parle toujours de l'écran, puis comme c'est un écran de smartphone, comme un S3, il est donc multi-touche, on peut...
Oui, donc si, quand on décide de regarder une photo qu'on vient de prendre, ben pour agrandir la photo, on a le choix. Tu peux y aller avec la molette de zoom, comme la plupart des appareils, ou avec deux doigts. Mm-hmm. Puis que quand tu prends une photo, tu sélectionnes un point de focus.
C'est excellent. Les écrans multitouches ne sont pas encore arrivés bien gros sur les caméras encore. Ouais, là. Disons qu'il n'y a pas grand-chose là-dessus.
Ouais, ça prend un système d'exploitation rendu là, parce que c'est gérer un écran tactile. Ça commence à être beaucoup de... quand même du processing power.
Oui.
Si je vais dans les points négatifs que j'ai trouvés, ben j'en ai parlé. La durée de la batterie, point d'interrogation, le démarrage à froid, même chose. Ce n'est pas un téléphone. Ah, parce qu'on s'y fait quand même un peu surprendre à chaque fois. Mm-hmm. Tu te ramasses avec ça dans les mains, puis t'as envie de te faire un... il manque juste la fonction téléphone. T'as même la carte SIM, mais pas de fonction téléphonique. Mais comme tu disais, Skype ou n'importe quel autre logiciel.
Tu sais ce que je pensais pendant que tu parlais? Je me disais, tu te mets un casque Bluetooth.
Il y a une prise d'écouteur aussi. Là-dessus, on peut mettre sa musique.
C'est assez impressionnant.
On peut écouter des films. Ça fait tout ce qu'un téléphone intelligent fait. Tout. C'est génial. Un autre point négatif, puis ça c'est vraiment dommage. Peut-être qu'un firmware pourrait ramener ça, mais on peut pas enregistrer en mode RAW.
Okay.
C'est JPEG seulement.
Ça me surprendrait qu'un firmware pourrait ranger ça. Ça serait surprenant.
C'est peut-être une question de... pourtant, techniquement, c'est de la compression logicielle. En tout cas, moi, je pense que ça pourrait être quelque chose viendra au prochain modèle.
Le prochain modèle, ça se pourrait. Ça serait pas impossible.
Ouais. Alors, c'est ça. Je suis tombé en amour avec ça. Je veux m'en procurer une. C'est vraiment un appareil que je me servirais. Puis, tu pars avec un objet de moins quand tu pars en voyage avec ça. Puis, pour ceux qui trippent médias sociaux, Ça va vraiment faire des belles photos.
Ben, j'ai beaucoup aimé l'exemple quand tu nous l'as présenté, quand on l'a vu ici. Stéphane disait, tu t'en vas couvrir une conférence de presse ou quelque chose de même avec cet appareil-là. C'est génial. T'as-tu besoin d'autres choses après ça? Mm. T'es capable de prendre des photos direct à mesure, de les envoyer direct.
Ouais. C'est ça. Incroyable. L'exemple, c'est Dropbox.
Ouais.
Quand tu prends ta photo, en t'ouvrant un compte Dropbox, lui, il détecte tout de suite que tu as un appareil photo, puis il upload ça dans un fichier. Puis là, ben, t'inscris qui tu veux à ton Dropbox.
Et je me trompe peut-être, mais comme c'est un appareil Samsung, je crois qu'on tombe au bonus là, de 48 gigs dans un compte Dropbox. Est-ce que tu l'as essayé?
Non. J'aurais donc dû, ben dû.
Parce que je sais qu'avec le Galaxy S3, on obtient 48 gigs supplémentaires dans Dropbox, ce qui nous fait monter à 50 gigaoctets de stockage. Très intéressant.
Mm-hmm. Mais en fait, je me suis inscrit à Dropbox, mais il ne m'a pas donné, non?
Mais tu l'as déjà avec le S3.
Peut-être que vu que je l'avais déjà.
C'est ça.
Mais non, effectivement. Mm. Je pense qu'il m'a juste donné un 500 MB, comme d'habitude, quand tu ajoutes un appareil.
Bon. À vérifier, mais s'il y a ça en plus, écoutez, c'est
un beau petit bonus.
Oui, parce que c'est pour 2 ans, ce 48 gigs-là, mais quand même.
Dans 2 ans, ils peuvent changer d'idée, faire d'autres choses, augmenter, whatever.
Ouais, ouais.
Franchement, bravo Samsung.
Oui. Belle réalisation. Alors, ceci conclut l'épisode 22. Ben, merci messieurs.
Merci.
À la prochaine.
Et à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre à podcast@objectifnumérique.com. Sur Twitter à Au Numérique et sur les autres réseaux à Objectif Numérique. Merci.